historique de diffusion. Alors le portage aujourd'hui, tout le monde s'y met, même il y a des aides à la presse, si vous voulez, gouvernementales, qui tendent à favoriser ce système de diffusion parce qu'on pense que c'est l'un des moyens pour faciliter la survie des journaux. Mais bon, construire à notre époque, avec les contraintes aussi sociales, logistiques que ça représente, un système de portage, c'est pas du tout, c'est pas de la tarte. Hein. Donc, d'autres journaux y arrivent, mais dans des conditions particulièrement compliquées. Hein. Donc très répandu en Alsace, mais ça existe aussi dans d'autres régions, en Lorraine, dans le Nord, en Bretagne, avec des systèmes quelquefois un petit peu différents. Chez nous, les porteurs sont des salariés, quelquefois dans d'autres régions. En Bretagne, par exemple, c'est un système différent, sauf ce qu'on appelle l'école porteur de presse, donc une espèce d'indépendance, si vous voulez. Mais le résultat pour le lecteur, quelque part, est le même. Autre élément, comment, du point de vue économique, comment fonctionne un journal? Alors, ses ressources, la particularité d'un journal, si vous voulez, c'est qu'il est vendu deux fois, hein, si je puis dire. Il est vendu une fois aux annonceurs, au sens large, et il est vendu une deuxième fois aux lecteurs. Ces deux sources de revenus sont à peu près d'égale importance, ça dépend des journaux. Pour les DNA, on est presque dans une situation idéale où la publicité représente ou représentait historiquement à peu près la même chose que la vente du journal. C'est le modèle idéal. Hein. Alors ça veut dire plein de choses, ça veut dire par exemple qu'un journal que vous payez 1 euro, en réalité il coûte 2 euros. 1 euro est pris en charge, si vous voulez, par le contenu publicitaire, et 1 euro, on simplifie outrageusement, mais c'est pour aller vite, et 1 euro est pris en charge, si vous voulez, par le lecteur. Alors, l'un des éléments qui justifie ce que j'ai pu évoquer par rapport à la crise de la presse, c'est précisément, si vous voulez, le fait que le marché publicitaire est en dégonflure totale depuis quelques années, pour des questions économiques, globalement, et aussi dans la structure de ce que nous appelons le marché publicitaire, il y a un véritable chamboulement qui est lié à Internet. Alors je m'explique. En fait, dans ce que j'appelle le marché publicitaire, dans ce que les journaux appellent le marché publicitaire, il y a plusieurs segments, si vous voulez, de ressources. Il y a la publicité au sens strict du terme, hein, c'est-à-dire la publicité qu'on appelle en professionnel commercial, les magasins, les entreprises font leur promotion dans le journal. Mais il y a aussi, si vous voulez, ce que vous nous accueillez dans le corps publicité de manière un petit peu impropre, qui est l'énorme chantier des petites annonces, domaine des petites annonces. Pour les DNA, c'était historiquement, c'est une autre particularité que j'aurais pu évoquer, c'était historiquement quelque chose d'énorme. Pensez encore, vous en avez le souvenir, au cahier immobilier du dimanche. Ça faisait quelquefois jusqu'à 40 pages. Aujourd'hui, on arrive péniblement à 16 pages, 20 pages quand tout va bien. C'est un marché qui s'est considérablement réduit sur des questions structurelles, pour des questions conjoncturelles. L'automobile, c'est pareil. Le marché de l'emploi, des offres d'emploi, c'est quelque chose qui était une ressource très importante pour les DNA. Ça a pratiquement disparu aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que les entreprises recrutent moins, elles sont en difficulté, et aussi parce que cette forme de communication ou d'annonce se fait pratiquement exclusivement à travers le net aujourd'hui. C'est-à-dire les entreprises recrutent directement à travers le net sur leur propre site. Ils n'ont plus besoin de passer par des journaux. Et donc ça, c'est un marché qui a dégringolé. Pour vous donner une idée, le chiffre d'affaires des DNA, c'est 100 millions d'euros par an. Il y a 10 ans encore, le marché de l'emploi, simplement les offres d'emploi, rapportait 60 millions d'euros par an. Six millions d'euros. Aujourd'hui, il en reste 1,5 à peu près. Donc il y a 4 millions et demi comme ça qui sont partis et qui ne reviendront plus jamais. Marché de l'automobile a pratiquement complètement disparu. Plus personne n'utilise, enfin très peu, utilise la petite annonce qui fait pour le marché de l'automobile. L'immobilier s'est considérablement réduit. Il reste tous les lieux soient loués, il reste les annonces de décès qui nous concernent tous.
Et les bonnes tables.
C'est sordide à dire, mais c'est un marché qui n'est pas négligeable. Et il reste les annonces légales. Vous savez, les créations, disparitions d'entreprises, assemblées générales, etc. Mais c'est un secteur qui est le prochain qui va disparaître de la presse parce qu'il va être dématérialisé pour des questions réglementaires au niveau européen. Et donc ça, c'est un prochain traumatisme franchise m'oblige à vous dire. Voilà, je ne sais pas, on peut peut-être arrêter provisoirement. Alors, il y a tout un... C'est vrai que, vous savez, le subconscient travaille quelquefois contre soi. Et dans la partie historique, je vais juste encore dire ça et après je m'arrête. Dans la partie historique, il y a une partie que je voulais avec les gens qui partagent mon âge et quelquefois qui en ont un petit peu plus, partager un mouvement qui n'est pas glorieux dans l'histoire des DNA. Enfin bon, c'est malgré nous. Hein. C'est ce qui s'est passé dans la période de la dernière guerre, où les DNA ont continué à exister de deux manières. Hein. Alors les véritables DNA, celles que nous reconnaissons et que nous aimons, ont quitté évidemment la région avec bien d'autres choses. Hein. Et ont existé d'abord à travers à Bordeaux, elles ont été interdites ensuite par le pouvoir de Vichy. Elles se sont reconstituées sous la forme d'un hebdomadaire à Montpellier à travers une équipe de journalistes qui était soutenue par le groupe Pillet dont je parlais tout à l'heure. Mais pendant ce temps, les DNA continuaient. Hein. Et je vais vous montrer une image que je ne montre jamais, parce qu'elle n'est pas faite, mais ça fait partie de l'histoire de l'entreprise. Je ne veux pas vous choquer, hein, c'est pas, mais ça fait partie de notre histoire. Voilà. Les DNA ont existé sous cette formule. C'était l'organe officiel du parti nazi. Pardon. Ben, ils ont occupé l'entreprise, ils ont pris les machines et ils ont publié leur. Et le dernier numéro, si vous voulez, le dernier numéro qui est apparu sous ce titre, alors que le lendemain, l'Alsace était libérée. Le dernier numéro qui a été publié sous ce titre parlait de l'avancée des troupes allemandes, etc. C'était un organisme, un support de propagande. Et j'ai une photo, vous voyez, dans la course des DNA dans laquelle je suis tous les jours. Mais je t'en prie. Je ne sais pas si vous me voyez de loin. Au Rheinischer-Kauferlag, il y a un aigle impérial sur une porte d'entrée principale. Donc ça aussi, ça fait partie de cette histoire, de cette région et de notre entreprise. Voilà, je voulais évoquer ça avec vous et je m'en arrêterai. C'était sur le... Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Oui. On donne la priorité à la meilleure.